Bonjour Laurent Pietraszewski, pardon, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Le gouvernement a-t-il étudié, mesuré les conséquences économiques de la fermeture ou de la limitation horaire qui viennent d'être imposées aux bars et aux restaurants de Marseille et Paris?
D'abord, il faut dire les choses très clairement. Ces décisions, ce sont des décisions courageuses au regard de la situation sanitaire. Ce sont des décisions qui visent à protéger nos concitoyens. Alors, nous sommes parfaitement conscients qu'il y a pour les restaurateurs, pour tous ceux qui tiennent des cafés, des bars, un manque à gagner. C'est pour cela, d'ailleurs, que Bruno Le Maire l'a dit récemment. Nous avons une action très forte d'accompagnement vis-à-vis d'eux, notamment en gonflant le fonds de solidarité, vous savez, qui permettait à chacun d'obtenir 1 500 € de revenus garantis par mois pendant cette crise sanitaire, lorsqu'on était indépendant, et bien de venir compenser une perte jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires. Vous voyez, nous avons la volonté de protéger l'ensemble des entreprises qui sont concernées par cette mesure.
Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que, du point de vue sanitaire, véritablement, les bars et les restaurants représentent un risque supérieur à d'autres lieux où les gens se retrouvent, les transports en commun par exemple?
Oui, on le voit, Olivier Véran l'a dit, il a été sollicité dans plusieurs médias sur ce sujet et je crois que les choses sont claires. Il y a un certain nombre d'études qui démontrent que dans ces lieux de convivialité, et moi-même j'apprécie m'y rendre, ce n'est pas le sujet, et bien notamment lorsque nous sommes en fin de journée et parfois sous l'emprise d'une forme de détente, voilà, on a respecté les règles dans l'entreprise toute la journée, et bien on perd un peu les gestes barrières, on perd un peu la distance, et il y a des risques qui peuvent s'amplifier.
Dans la réponse économique à la crise du coronavirus, qui va peser très lourd sur les comptes public, le gouvernement avait-il envisagé que cette crise durerait si longtemps?
Vous savez, c'est difficile de faire des prédictions en la matière. Et d'ailleurs, je pense que le travail du gouvernement, c'est pas de faire des prédictions.
Je pourrais vous poser la question autrement. Quand le plan de relance de 100 milliards d'euros a été conçu, c'était il y a quelques mois maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, le gouvernement imaginait que fin septembre, nous en serions encore là?
Mais le rôle du gouvernement, c'est de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les Français. Donc nous adaptons, je comprends votre question, nous nous adaptons à la réalité de ce virus. Vous savez, nous vivons une situation exceptionnelle. Eh bien, nous ajustons nos mesures, c'est ce que nous venons de faire en matière de protection des Français, mais aussi en matière d'accompagnement des salariés des entreprises.
Le déficit de la sécurité sociale devrait atteindre près de 45 milliards d'euros en 2020, précisément 44 milliards 700 millions d'euros. C'est un record absolu. Le précédent était de 28 milliards en 2010 lors de la crise financière. Les comptes sont évidemment très largement plombés par les dépenses liées au coronavirus. Par exemple, la politique très massive de tests, autour d'1 million par semaine, ça coûte très cher. Et pour quel résultat?
Vous avez raison de dire que le déficit de notre protection sociale, en réalité, va être extrêmement impacté par une baisse de recettes, d'abord pour la sécurité sociale, mais aussi par des dépenses qui sont d'ailleurs attendues et demandées par les Français. Vous savez, vous n'avez pas évoqué les mesures qui sont liées au Ségur de la santé, avec une revalorisation massive des rémunérations pour nos soignants et des investissements massifs à l'hôpital. Vous allez souligner le fait qu'il y a des coûts pour la politique de test. D'abord, c'est aussi nécessaire pour prévenir la diffusion du virus, de pouvoir tester. Vous avez noté que Olivier Véran avait fait évoluer cette politique de test, notamment en permettant d'avoir pour les médecins qui prescrivent des tests, notamment pour les personnes qui sont symptomatiques, un fléchage de manière à avoir des réponses rapides pour ces éventuels malades du Covid. Eh bien, on voit aussi qu'il y aura une évolution des types de tests qui seront proposés dans les jours, les semaines qui viennent. C'est d'ailleurs récemment un des avis du Haut Conseil de la Santé publique qui a été rendu, qui valide un nouveau test, notamment pour les personnes symptomatiques.
Des discussions reprennent aujourd'hui avec les partenaires sociaux sur la question notamment du télétravail. Est-ce qu'aujourd'hui, face à la menace du coronavirus, le gouvernement dit aux entreprises essayer autant que possible de recourir au travail à distance?
Vous l'avez vu, ça fait partie des recommandations qui ont été aussi données par le gouvernement. Olivier Véran s'est exprimé, je le confirme de la même façon, notamment toutes les zones. Nous sommes dans une zone d'alerte renforcée. Je crois qu'il faut être attentif à la façon dont on peut protéger nos concitoyens. Et faciliter le télétravail, éviter les déplacements, éviter les regroupements dans l'entreprise peut en faire partie. Mais soyons réalistes, Frédéric Rivière. Moi, je ne crois pas à une règle unique pour tous. La réalité d'une entreprise qui, peut-être dans le tertiaire, à la défense, ce n'est pas celle d'une entreprise de fabrication automobile à Douai. Et donc, il faut regarder les choses au cas par cas en fonction de la réalité.
Le président de la République est toujours déterminé à réaliser la réforme des retraites, qui a été évidemment stoppée par la situation sanitaire, pour instaurer donc un régime universel par point. Est-ce que c'est bien raisonnable dans cette situation si particulière que nous connaissons ? Parce que c'est un sujet qui divise beaucoup.
Vous a pas échappé que le gouvernement avait décidé de
temporiser,
réunir toute son énergie et toute l'énergie des partenaires sociaux sur la lutte contre cette crise économique et sociale aujourd'hui.
Oui, mais d'ailleurs, tout en disant, on n'oublie pas, on va la faire cette réforme.
Parce qu'il y a un engagement et une nécessité. Il y a un engagement vis-à-vis de l'ensemble de nos compatriotes de mettre en œuvre un système de retraite qui soit plus juste. Vous savez, on a beaucoup parlé de cette deuxième ligne, on a beaucoup parlé de toutes ces personnes qui ramassent nos poubelles le matin, on a parlé de ces hôtesses de caisse, de ces employés logistiques qui ont emballé les colis que nous avons commandés par Internet pendant la crise sanitaire et que parfois nous commandons encore. Eh bien, ce sont toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont les grands perdants du système de retraite actuel. Et moi, je veux pouvoir leur proposer un système de retraite qui soit un système de retraite plus juste, qui va notamment s'attacher à donner une meilleure pension de retraite aux plus modestes, qui sont ces salariés de la deuxième ligne.
Vous ne craignez pas le choc social que ça pourrait provoquer de relancer ce projet de loi ?
Vous avez compris que nous voulons le faire dans un climat apaisé, un climat pacifié. Donc nous réfléchissons, nous travaillons aujourd'hui avec Jean Castex sur les meilleures voies à trouver pour mettre en œuvre cette transformation du système de retraite. Le moment venu, aujourd'hui, le moment, c'est celui de lutter contre la crise économique et sociale.
Merci Laurent Pietraszewski. Bonne journée.
Merci.